Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur CNews. À la une de l'actualité, ce drame à Châteauroux, un adolescent de 15 ans est mort samedi, victime de plusieurs coups de couteau. Le principal suspect est un jeune Afghan de 15 ans, déjà connu des services de police. Il a été placé en garde à vue. Des renforts de police ont été déployés à Givors, au sud de Lyon, après des scènes de chaos. Des incidents et des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont éclaté hier soir. Deux voitures de police et des poubelles ont été incendiées. Nouvelle scène de violence à Marseille. Cette fois-ci, un drame a été évité de justesse ce samedi. Une fusillade a éclaté sur un point de deal près d'une crèche. Une balle a atterri dans le salon d'une habitante. Ses enfants de 10 et 12 ans étaient présents dans le logement. Aucun d'eux n'a été blessé. C'est désormais officiel. Le Paris Saint-Germain est champion de France. Le PSG a remporté le titre après la défaite de Monaco contre Lyon. C'est le 12e titre de champion de France décroché par le club de la capitale. Cap désormais, bien sûr, sur la Ligue des Champions. Un adolescent de 15 ans est donc mort ce samedi, victime de plusieurs coups de couteau. C'était à Châteauroux, le principal suspect est un jeune Afghan de 15 ans lui aussi. Déjà connu des services de police, il a été placé en garde à vue. Les dernières informations avec Mathilde Ibanez.
Se sont passés vers 17h30 ce samedi à Châteauroux dans l'Indre. Un jeune homme âgé de 15 ans a été poignardé au thorax et dans le dos dans le cadre d'une bagarre. Malgré l'intervention rapide des pompiers sur place, le jeune garçon est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital. Sans antécédent judiciaire, l'adolescent poignardé, apprenti, cuisinier et fils de restaurateur, était accompagné d'un ami également apprenti. Au moment des faits, un suspect a été interpellé 2 heures après l'agression. Il s'agit d'un jeune Afghan du même âge, 15 ans, en situation régulière sur le territoire. Il était déjà connu défavorablement des services de police. Interpellé plusieurs fois depuis le début de l'année, le 29 février, mais également le 20 avril, à chaque fois pour vol avec violence en réunion sous la menace d'un couteau. Selon le procureur, la mère de l'adolescent, l'adolescent suspect pourrait également être impliqué dans les faits de samedi, selon les premiers témoignages recueillis. La femme, âgée de 37 ans et sans antécédent judiciaire, a également été placée en garde à vue. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la police judiciaire d'Orléans et au service départemental de la police judiciaire du commissariat de Châteauroux. Une autopsie de la victime a été ordonnée par le parquet.
Des renforts de police ont été déployés à Givors, c'est au sud de Lyon, après des scènes de chaos. Des incidents et des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont éclaté. Deux voitures de police et des poubelles ont même été incendiées. Le récit est signé Mathilde Ibanez avec Thibault Marcheteau.
Ce samedi vers 18h, suite à une agression commise sur un adolescent, 5 personnes ont été interpellées, dont 4 placées en garde à vue. Pendant l'intervention, les policiers sont pris à partie. Pas de blessés, mais vers 22h, une trentaine de jeunes jettent des projectiles dans la cour de la mairie, où deux véhicules de la police municipale garés juste ici sont incendiés. Sur X, la préfète de la région apporte son soutien aux forces de l'ordre.
La préfète condamne fermement les violences commises à Givors envers sa municipalité et sa police.
Un énième épisode de violence en plein centre-ville, les habitants sont à bout.
C'est de plus en plus souvent et il y a un sacré ras-le-bol quand même, quoi. Samedi dernier, déjà, il y a eu pas mal de grabuges. Après, ça faisait un petit moment que ça s'était calmé, malgré tout. Et ça reprend de temps en temps. On ne sait jamais vraiment à l'avance, en fait.
Depuis quelques temps, il y a souvent des réunions de jeunes, ici, à côté de la mairie, qui sont un peu douteuses. C'est de plus en plus commun, en fait. Alors avant, je savais que c'était un peu plus chaud vers les quartiers. On se disait qu'on était tranquille au centre-ville. Et petit à petit, disons que ça se décale et puis ça arrive de plus en plus vers les centres-villes et c'est un peu compliqué, quoi.
Des renforts de la police nationale restent mobilisés cette nuit. La CRS 83 est prête à intervenir en cas de besoin.
Nouvelle scène de violence à Marseille. Cette fois-ci, un drame a été évité de justesse. Ce samedi, une fusillade a éclaté sur un point de deal près d'une crèche. Une balle a atterri dans le salon d'une habitante. Ses enfants de 10 et 12 ans étaient présents dans le logement. Aucun d'eux n'a été blessé. Les précisions de Sandra Buisson.
Les policiers sont en patrouille ce samedi après-midi dans le 11e arrondissement de Marseille, quartier de la Val-Barelle, dans un secteur connu pour être le lieu de trafic de stupéfiants. Ils constatent la présence d'individus suspects qui vont prendre la fuite et s'enfoncer dans la pinède avoisinante. C'est là que des coups de feu retentissent. Trois hommes vont finalement être interpellés. Deux d'entre eux sont âgés de 16 ans, ce sont des adolescents, et le troisième a 19 ans. Parmi les tirs, deux impacts sont retrouvés sur la façade d'un bâtiment de ce quartier, un dans le hall d'entrée et un autre sur une baie vitrée du troisième étage. La balle a atterri dans le salon d'une habitante. À ce moment-là, elle était allongée dans son canapé qui se trouve devant la baie vitrée et ses enfants de 10 et 12 ans étaient sur deux chaises juste à côté d'elle. La balle a traversé la baie vitrée, elle est venue ricocher sur le mur du salon pour venir finir sa course sur le fameux canapé. Aucun des membres de cette famille n'a heureusement été blessé. Près de cet immeuble, les policiers ont aussi retrouvé deux balles non percutées dans le jardin d'une crèche, sachant que c'est à proximité de cette crèche que les trafiquants cachent habituellement une partie de la drogue quand ils sont sur le point de deal. Derrière la crèche, les policiers ont également saisi un sac avec deux couteaux, de la résine de cannabis et du matériel de conditionnement.
Et alors que Marseille est plus que jamais gangrénée par le trafic de drogue, certains policiers dénoncent, écoutez bien, une mexicanisation de la ville, c'est le cas de Rudy Mana. On l'écoute.
Vous savez, il y a un procureur de la République de Marseille qui avait parlé de mexicanisation. Je crois qu'on est en plein dedans. J'ai presque envie de dire que c'est le Far West, puisqu'il semblerait que ce soit des individus qui ont pris la fuite dans une pinède avec des hautes herbes et qu'ils ont tiré en rafale en direction de je ne sais qui. Ça, c'est l'enquête qui va l'établir. Ce sont les analyses balistiques qui vont permettre d'établir s'ils visaient les policiers ou s'ils faisaient des tirs juste pour disperser et pour faire peur, parce qu'ils ont été, chassés par les policiers. Ils étaient probablement en possession de produits stupéfiants, parce qu'on a trouvé, et Sandra Buisson l'a bien dit, on a trouvé un sac avec à l'intérieur des produits stupéfiants.
Le gouvernement veut créer un parquet national dédié à la lutte contre la criminalité organisée. Il souhaite également renforcer le statut de repenti. Selon le ministre de la Justice, l'objectif est notamment de mieux coordonner l'action de la justice et de la rendre plus efficace contre le crime organisé. On fait le point avec ce sujet de Viviane Hervier.
Pour mieux lutter contre le crime organisé, Éric Dupond-Moretti propose la création d'un nouveau parquet national anticriminalité. Il sera calqué sur le modèle du parquet national antiterroriste et du parquet national financier qui ont prouvé leur efficacité en permettant une meilleure coordination de l'action de la justice.
On centralise tout cela, on est plus efficace, on coordonne davantage. Et je pense que dans cette matière de la criminalité organisée, qui se développe, il est utile qu'il y ait ce procureur national dédié à la lutte contre la criminalité organisée.
Le garde des Sceaux souhaite revoir également le statut de repenti qui existe déjà en France mais qui ne fonctionne pas, avec seulement 20 cas recensés depuis 2014. Les trafiquants repentis se verraient proposer des réductions de peine mais aussi de vraies garanties.
Les protéger, protéger leur famille, faire en sorte que sur le terrain des peines, il y ait des peines réduites. Le silence est l'ennemi de la justice en la matière.
Le coût de ce statut des repentis sera intégralement couvert par les avoirs criminels saisis par la justice, 1,4 milliard d'euros en 2023. Enfin, Éric Dupond-Moretti propose que les cours d'assises spéciales, composées uniquement de magistrats professionnels, jugent désormais les règlements de compte entre trafiquants, afin d'éviter les pressions et les menaces sur les jurés d'assises qui traitent actuellement ce genre d'affaires.
Dans le reste de l'actualité, Véronique Sanson a été hospitalisée dans la nuit de samedi à dimanche. La chanteuse souffre d'une pneumonie. Son concert prévu ce samedi soir à Nantes a donc bien sûr été reporté au 30 mai. Véronique Sanson fête ses 50 ans de carrière avec une tournée de concerts avant les festivals de l'été. Emmanuel Macron remet le sujet sur la table. La défense européenne pourrait comprendre, écoutez bien, l'arme nucléaire. Le président de la République se dit prêt à ouvrir ce débat et regarde ce qui nous protège véritablement de manière crédible des propos vivement critiqués par les oppositions. Juliette Sadat.
L'arme nucléaire mise au service de l'Europe. Dans un entretien avec des jeunes pour les journaux du groupe Ebra, Emmanuel Macron se dit prêt à ouvrir le débat.
Je suis pour ouvrir ce débat qui doit donc inclure la défense antimissile, les tirs d'armes longue portée, l'arme nucléaire pour ceux qui l'ont ou qui disposent sur leur sol de l'arme nucléaire américaine. Mettons tout sur la table et regardons ce qui nous protège véritablement, de manière crédible.
Une défense crédible, le président avait déjà plaidé pour cela à la Sorbonne ce jeudi. Une Europe puissante aux côtés de l'OTAN et face à la Russie, de plus en plus menaçante.
C'est une guerre qui bafoue le droit international, les frontières internationales européennes, et c'est une guerre qui nous menace. Si on laisse la Russie gagner et qu'il y a capitulation de l'Ukraine, c'est l'insécurité pour des décennies.
Objectif pour Emmanuel Macron, faire de l'Europe une puissance capable de se défendre, ainsi que réaffirmer la place de la France, seul pays des 27 États membres de l'Union européenne à disposer de l'arme nucléaire.
Contrer une initiative allemande qui a été lancée il y a à peu près un an, en mai 2023, cette initiative allemande consiste à mettre en place un bouclier antimissile européen qui protégerait donc les frontières de l'Europe d'attaques de missiles de toutes sortes, donc il y a de fait des conséquences sur ce que la France appelle la dissuasion nucléaire, c'est notre capacité défensive.
Une prise de position qui fait débat. La défense de l'Union européenne est jusque-là assurée par l'OTAN.
Des tags nazis ont été découverts sur un monument à la résistance à Sète, c'est dans l'Hérault. La police nationale précise qu'il s'agit de croix gammées et d'inscriptions à caractère injurieux. Tous ont été tagués sur le monument aux martyrs de la résistance et de la déportation. Dans l'actualité internationale, à présent, les efforts s'intensifient pour une trêve à Gaza. Une délégation du Hamas arrivera ce lundi en Égypte. L'organisation terroriste dit ne pas avoir de problème majeur quant à une proposition égyptienne de trêve. Le Hamas donnera sa réponse à une proposition de trêve israélienne associée à la libération des otages, alors que samedi, il a publié une nouvelle vidéo montrant deux otages israéliens. Une manifestation pour le moins inquiétante. En Allemagne, des centaines de personnes ont défilé à Hambourg pour réclamer un califat. Certaines abordaient des pancartes portant l'inscription « Gaza a remporté la guerre de l'information ». Les précisions du spécialiste terrorisme et renseignement Claude Moniquet.
Mussim Interactive, qui organisait la manifestation islamiste de Hambourg samedi après-midi, est une couverture du Hizb ut-Tahrir, le parti de la libération, qui est interdit en Allemagne. Le Hizb ut-Tahrir est une scission des frères musulmans qui a été créée à Jérusalem en 1953 et qui prêche des choses simples, la primauté de la charia sur les lois civiles et l'établissement, l'instauration d'un califat. L'organisation est interdite en Asie centrale et dans plusieurs pays arabes du fait de son extrémisme. Elle est présente légalement ou illégalement, parfois clandestinement, en Allemagne, au Danemark, où elle a failli être interdite pour antisémitisme, en Suisse et dans d'autres pays européens. Elle s'est réactivée depuis le 7 octobre, comme beaucoup d'organisations de ce type, parce que le 7 octobre a donné un nouvel élan à l'islamisme radical politique partout dans le monde. Elle n'est cependant pas présente, en tout cas pas officiellement présente en France. En France, ce sont les frères musulmans qui ont la primauté sur les organisations islamistes, et les frères musulmans ont une stratégie totalement différente de Hizb ut-Tahrir. Le Hizb ut-Tahrir prêche la confrontation directe avec l'Occident et ses valeurs. Les frères musulmans, eux, préfèrent jouer la carte de l'entrisme et de l'influence.
Giorgia Meloni se présente comme tête de liste de son parti aux élections européennes. La chef du gouvernement italien l'a annoncé. C'était lors d'un discours où elle a vanté les efforts de sa coalition pour combattre l'immigration clandestine, défendre la famille et les valeurs chrétiennes. Ces images impressionnantes à présent, les tornades continuent de faire des ravages aux États-Unis. Après une première salve vendredi, le centre du pays a une nouvelle fois été frappé ce week-end. L'Oklahoma est l'un des États les plus concernés. Les dégâts sont majeurs, vous le voyez, de nombreux bâtiments sont complètement détruits. Les routes sont jonchées d'innombrables débris. C'est un moment inoubliable pour l'équipage du BLM. La flamme olympique a traversé le majestueux canal de Corinthe. Il était spécialement ouvert pour l'occasion. à bord. Même les marins les plus expérimentés avaient les yeux émerveillés. Le trois-mâts fleuron du patrimoine maritime français a quitté la Grèce en direction de la France. Le voilier est attendu le 8 mai à Marseille, où commencera bien sûr le relais de la flamme jusqu'à la cérémonie d'ouverture. Et à moins de 3 mois désormais du début des Jeux Olympiques, les commerçants ne cachent pas leur inquiétude. Certains regrettent notamment un manque de communication de la part des organisateurs, alors que la préfecture a élargi le périmètre des commerces parisiens qui pourront ouvrir le dimanche. Un reportage de Marie-Victoire Dieudonné.
Les Jeux Olympiques, des défis à relever pour les athlètes, mais aussi pour les commerçants. Et pour la cérémonie d'ouverture, cela concerne plus spécifiquement les bords de Seine. Ce restaurateur ne cache pas son inquiétude.
Personne n'est sûr de rien. C'est ce qui est dommage, c'est qu'on arrive quand même à moins de 100 jours, je crois. Et on n'a pas d'infos précises, quoi. Ça me fait un peu peur. En tout cas, commerçant n'a pas le ressenti d'une bonne organisation, en tout cas d'une bonne communication.
Quelques rues plus loin, sur le pont au double, ce vendeur de crêpes anticipe une interdiction de venue sur son lieu de travail. Avec regret.
C'est une période où on attend beaucoup de clients. Enfin, depuis longtemps, on se dit, bon voilà, avec le tourisme, le tourisme va exploser durant les Jeux Olympiques. Et c'est vrai que le fait qu'on n'ait pas le droit de venir travailler durant spécialement cette période-là, c'est un peu regrettable. Ouais.
À quelques pas de Notre-Dame de Paris, l'atelier Maître Albert va exceptionnellement rester ouvert cet été pour accueillir les supporters du monde entier. Mais la venue du personnel, comme celle de la clientèle, sera perturbée. Alors pour l'inauguration, la décision est prise.
J'ai décidé de fermer le jour de l'inauguration parce que ça va être trop compliqué pour nous. Voilà. Oui, parce que comme c'est l'inauguration sur la Seine, donc globalement ça va être tout sécurisé tout le long, donc ça va être impossible de circuler.
Plus de 300 000 personnes sont attendues pour inaugurer les Jeux Olympiques de Paris le 26 juillet prochain.
Tout de suite le journal des sports avec notamment une grande page accordée au football. C'est désormais officiel, le Paris Saint-Germain est champion de France. Le PSG a remporté le titre après la défaite de Monaco contre Lyon. C'est le 12e titre de champion de France décroché par le club de la capitale. Cap désormais, bien sûr, sur la Ligue des champions. Et je vous le disais, Paris est champion après la victoire de Lyon ce dimanche face à Monaco, 3-2. Ben Yedder ouvre le score pour Monaco dès la première minute. La Lacazette égalise 20 minutes plus tard à la réception d'un centre de Matic. Vous le voyez, ce centre est le but de la Lacazette. Lyon qui prend l'avantage grâce à Benrahma, 2-1 donc pour Lyon à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, Ben Yedder égalise après une superbe tête décroisée à 10 mètres. Enfin, Fofana inscrit le but de la victoire pour Lyon. Au classement, Lyon est 8e, Monaco reste 2e. Et plus tôt ce dimanche, Brest est allé s'imposer 5-4 sur la pelouse de Rennes dans un incroyable derby breton. Vous l'avez deviné, les Rennais prennent rapidement l'avantage dans ce match avec un doublé de Kalimuendo. C'est 8e et 9e but de la saison. 2 minutes plus tard, Mounier réduit l'écart de la tête. Au retour des vestiaires, le match s'emballe. Brest égalise sur un contre-sans-camp d'Omari, puis repasse devant à la 54e minute grâce à Satriano. On n'arrête plus les Brestois qui inscrivent un 4e but par Camara à la 66e. Rennes revient dans le match quelques minutes plus tard sur un but de Théâtre, puis égalise à 4 partout sur un but de Terrier. Mais au bout du temps additionnel, Brassier de la tête donne la victoire à Brest. Les Brestois seront européens la saison prochaine. Et on voit le dernier but, Brestois. En première ligue désormais, c'est du football anglais. Arsenal reste plus que jamais leader du championnat. Les Gunners se sont imposés à domicile 3-2 face à Tottenham. Rapidement devant au score de 3 buts, les hommes de Mikel Arteta ont bien tremblé, mais ont fini par remporter ce derby du nord de Londres. Le résumé du match avec Colin Ancel.
Outre l'enjeu de suprématie territoriale, en cette fin de saison, ce derby du nord de Londres est primordial. 15 minutes de jeu et c'est sur corner qu'Arsenal allume la première mèche de ce derby. Pierre-Emile Højbjerg marque contre son camp. Tottenham se rebiffe, nouveau coup de pied arrêté et Christian Romero trouve le poteau. Avant que son compère de la charnière centrale, Mickey Van de Ven, n'égalise, but refusé pour hors-jeu. Les Spurs poussent, mais Arsenal est clinique en contre.
Et Bukayo Saka le contrôle en pleine course. Saka, c'est l'excellent ballon, c'est la balle de break, c'est la balle de but pour Arsenal qui lance idéalement son opération derby.
coup dur pour Tottenham qui sombre complètement 10 minutes plus tard.
Rice bien rentrant à Vert.
Arsenal serein, pas totalement, surtout lorsque David Raya manque sa relance. Christian Romero en profite et inscrit son 5e but en championnat. Et à 10 minutes du terme, le Tottenham Hotspur Stadium reprend espoir. Ben Davies est touché par Declan Rice. Penalty transformé par Heung-Min Son, 3-2. Mais les hommes de Mikel Arteta s'en sortent et remportent une deuxième victoire en deux derbies cette semaine.
Et on termine ce journal des sports avec de la MotoGP. Alors qu'il n'avait plus gagné depuis la manche inaugurale au Qatar, Francesco Bagnaia s'est imposé en Espagne ce dimanche devant Marc Marquez. Côté français, Fabio Quartararo termine 15e, Johan Zarco 23e. Les meilleurs moments de la course avec Thibaut Duclos.
Marquez, Martin Acosta, quel espagnol pour briller à domicile. Triple vainqueur à Jerez, Marquez profite cette fois de sa première pole avec Ducati avant que les Italiens ne viennent semer la pagaille.
Attention à l'intérieur, oui, il a pu recouper la trajectoire, il a laissé vraiment une toute petite place et c'est passé pour Francesco Bagnaia.
Collé à la roue arrière du leader du championnat, Bagnaia presse à l'affût d'une erreur.
Et la chute de Roré Martin, il perd l'avant, Roré Martin qui a craqué. Il y va à l'intérieur, ça y est, c'est passé. Est-ce qu'il va pouvoir conserver la première place? Non, l'attaque à nouveau à l'intérieur. Attention, contact entre les deux pilotes. Et Francesco Bagnaia, cette fois-ci, ne va pas se laisser faire. Et il reprend la première position.
Francesco Bagnaia a le dernier mot. Victoire devant Marquez et Bezzecchi. Il revient à 17 points de Martin au championnat.
C'est la fin de ce journal, mais ne bougez pas. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Et on reviendra notamment sur ce drame à Châteauroux. Un adolescent de 15 ans est mort samedi, victime de plusieurs coups de couteau. Le principal suspect est un jeune Afghan de 15 ans, déjà connu des services de police. Il a été placé en garde à vue.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
Hey marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.